Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais pour moi, le continent africain, il n'est jamais vraiment bien défendu dans les médias. On y parle de coup d'État, on y parle de famine, on y parle de sécheresse, on y parle de misère. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'image que l'on a de ce continent. Alors qu'en fait, il y a énormément de richesses, beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses qui se passent dans ce continent, qui pourraient même être, pourquoi pas demain, un modèle pour le reste des pays. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ina Modja. Ina Modja, c'est une artiste, musicienne, mais aussi ambassadrice à l'ONU pour l'environnement sur le continent africain. Elle est la présentatrice d'un documentaire incroyable qui s'appelle « The Great Green Wall », donc qui est une grande barrière verte qui se fait tout le long du Sahel en Afrique, donc d'est en ouest ou d'ouest en est, comme vous le souhaitez. Et avec Ina, je vous cache pas, c'est une très bonne amie, donc voilà, il y a une, clairement un lien entre nous deux qui est très fort. On parle de beaucoup de sujets avec des histoires sincères, vraies, très profondes, qui, je pense, vous toucheront naturellement au cœur. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Ina.
Bonjour Greg.
Je suis tellement content de t'avoir aujourd'hui. D'abord parce que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu.
Oui.
Et puis parce qu'on se connaît depuis un moment et que je connais tout ton engagement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce projet qui s'appelle The Great Green Barrier.
Donc Great Green Wall.
The Great Green Wall. Je sais pas pourquoi j'arrive pas.
Parce qu'en français, on utilise beaucoup le mot barrière en fait. C'est parce que tu connais le projet, c'est pour ça.
Donc, il y a un projet sur le continent africain autour de l'écologie. Et c'est vrai qu'on a cette image d'Épinal un peu. En tout cas, je crois qu'en France, on l'a toujours, qui est que l'Afrique, c'est limite la savane, c'est-à-dire t'as des animaux sauvages, et puis t'as de la forêt luxuriante partout. Alors bien sûr, on a aussi en tête la sécheresse, mais néanmoins, tu vois, on imagine le continent africain un peu comme ça. Et c'est pas nécessairement la réalité. C'est encore moins la réalité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites pour l'Europe ou pour les pays occidentaux sur le continent africain. Et du coup, ça a généré pas mal de problèmes. Est-ce que tu peux nous parler de l'essence, enfin, de l'origine du projet, en fait?
The Great Green Wall est un projet qui a été créé, en fait, par 11 États africains pour aider à lutter contre la désertification et lutter contre les conséquences du changement climatique. Et ce sont des États qui sont tout le long du Sahara. Donc dans le Sahel, cette région qui est en bas du Sahara. Donc c'est un projet qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti, donc qui traverse l'Afrique.
D'est en ouest, et d'ouest en est.
D'ailleurs. Oui. Et en fait, l'idée, c'est de créer un projet dans les communautés. C'est comme des mosaïques de projets qui se suivent et qui sont d'aider à restaurer les terres détériorées. Et créer des projets d'agriculture qui permettent de reverdir ces zones-là qui sont aujourd'hui complètement désertiques. Et au fur et à mesure que le désert avance, ce sont des régions où les populations doivent migrer. Donc il y a tout un tas de problématiques autour de ça qui sont les raisons pour lesquelles le projet a été créé. Et donc, c'est parti d'une idée, en fait, une philosophie de Thomas Sankara, qui est le chef d'État révolutionnaire du Burkina Faso dans les années 80, qui a été assassiné, et qui avait cette idée de planter des arbres pour prévenir l'avancée du désert, et aussi de pas juste planter des arbres, mais aussi produire ce qu'on mange, donc devenir autosuffisant. Et donc c'est une philosophie qu'ils ont essayé de mettre en place, et c'est un projet qui est pharaonique, mais qui aujourd'hui, depuis 12 ans qu'il a été créé, aujourd'hui on voit dans certains pays un début de changement. Et aujourd'hui, entre 2020 et 2030, ils ont décidé de faire le gros du projet, d'achever au moins 90% de ce Great Green Wall. Donc il y a des pays où rien n'a poussé depuis le début, comme au Mali, d'où je viens, parce que les zones dans lesquelles le projet avait commencé, ben, ce sont des zones où il y a beaucoup de terrorisme aujourd'hui, et il y a des endroits comme le Sénégal ou l'Éthiopie où c'est tellement avancé. Donc c'est un work in progress, mais c'est un projet qui est très prometteur et qui pourrait vraiment changer la donne en Afrique. Parce que malheureusement, quand on voit la zone du Sahel, comment est-ce que elle est touchée par le terrorisme, elle est touchée par la migration forcée, elle est touchée par tellement de problèmes, on se rend compte de l'impact du changement climatique. Mais beaucoup de gens ne se posent pas de questions quand ils voient les réfugiés climatiques arriver en Europe. Par exemple, quand on les appelle les migrants, mais ça efface quelque part les raisons pour lesquelles ils sont là. Beaucoup pensent qu'ils sont là pour des raisons économiques, mais pour moi, ce sont des migrants écologiques, parce que dans les zones rurales, 80% des gens vivent d'une forme ou d'une autre d'agriculture. Et s'ils ne peuvent plus pratiquer l'agriculture, qu'ils ne peuvent plus gagner leur vie et s'occuper de leur famille, ils sont obligés de partir. Souvent, les capitales sont saturées. Donc, ils ont ce recours-là que de venir en Europe, parce que c'est vu encore comme l'Eldorado, et pendant très longtemps, le rêve africain a été en dehors du continent. Donc, ce projet de The Great Green Wall vise vraiment à ramener le rêve africain en Afrique, c'est-à-dire de donner des opportunités aux jeunes. Et les jeunes, c'est ce qui constitue l'Afrique, la moitié de l'Afrique en dessous de 25 ans. Donc quand on voit que dans 20, 30, 40 ans, quand on voit le taux de natalité, l'Afrique va presque doubler sa population d'ici 2050. Donc pour ces jeunes-là, il faut aujourd'hui prendre des dispositions pour construire leur avenir. Donc c'est un projet qui est très vaste et qui répond à beaucoup, beaucoup de choses.
Et alors, je ne savais pas du tout que à l'origine de ce projet, enfin, il y a plein de trucs que je ne savais pas, mais je ne savais pas du tout qu'à l'origine du projet, il y avait ce président du Burkina Faso qui, si je ne me trompe pas, est... parce que je connais pas très bien, malheureusement, je peux pas tout connaître, en l'occurrence. Ça, je suis pas très au courant. Je sais que c'était quelqu'un d'emblématique. Enfin, si je me trompe pas, c'est vraiment, je sais pas si tu veux nous en parler deux minutes, parce que, c'était vraiment un personnage très particulier, quoi.
Oui, Thomas Sankara était un leader révolutionnaire du Burkina Faso. Et, son idée, c'était vraiment, tout ce qui était durable et, autosuffisant. Parce que, après les diverses révolutions qu'il y a eu en Afrique pour obtenir l'indépendance, lui voulait qu'on devienne autonome désormais. Et je dis « on » parce que je suis africaine, mais et que les idées dans sa politique qu'il défendait, aujourd'hui, je les comprends bien. Mmh. Il voulait une autosuffisance pour le Burkina Faso, parce qu'il se disait que si on arrivait à cultiver ce qu'on mange, ça nous rendait indépendants. Mmh. Ce qu'il voulait éviter, c'était la dépendance à l'Ouest. Il voulait vraiment... Et en 3 ans, il a réussi à l'obtenir. En 3 ans, il a réussi à faire en sorte que le Burkina cultive ce qu'il mange. Et il avait une vision qui, aujourd'hui, me semble complètement réalisable. Mais c'est un chef d'État qui a été assassiné pour diverses raisons. Et comme beaucoup de leaders africains, comme Patrice Lumumba, etc., qui avaient des visions un peu avant-gardistes pour l'Afrique. Et la philosophie de Thomas Sankara, qui était de planter des arbres et de cultiver, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de ramener dans The Great Green Wall, c'est-à-dire que les communautés deviennent vraiment acteurs de leur destin, acteurs de leur vie, et ce sont des projets communautaires qui sont... ils en sont les leaders, ils en sont les acteurs et aussi les bénéficiaires. Et donc, moi, j'ai voyagé le long de ce Great Green Wall, du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. On n'a pas pu aller à Djibouti parce qu'on n'en a pas eu l'autorisation, parce que l'équipe était assez vulnérable. Politiquement, c'était un peu difficile d'y aller au moment où on voulait aller. Par contre, on est allé en Éthiopie, notamment, on a passé du temps dans la région de Tigré, qui aujourd'hui est une région un peu assez vulnérable avec des conflits. Et ce qu'on a vu à Tigré, moi, m'a vraiment particulièrement choquée, parce que Tigré, c'était une des régions qui avait le plus souffert des grandes famines en Éthiopie, les deux grandes famines. Et j'ai rencontré un leader de communauté qui, avec toute sa communauté, en fait, ils ont travaillé ensemble. Chaque adulte donnait jusqu'à 40 jours par an pour travailler la terre, travailler à restaurer les terres détériorées. Et j'ai rarement vu un endroit aussi vert. Avant d'y aller, c'était la première fois pour moi d'aller à Tigré et j'avais un peu une appréhension parce que, comme tout le monde, on a vu les images des famines d'Éthiopie, etc. Et je me disais, autant d'années après, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Et je suis vraiment tombée à la renverse parce que c'était un des endroits les plus verts que j'ai vus, en fait. Et je les ai vus vraiment travailler, replanter. Ils m'ont montré aussi comment est-ce que les systèmes qu'ils avaient mis sont des systèmes, des techniques vraiment locales qu'ils ont utilisées pour stocker l'eau, par exemple. L'eau des pluies, comment est-ce qu'ils faisaient pour le garder pour les saisons un peu plus chaudes ou un peu plus sèches, etc., et les réutiliser. Tout un système de sustainability, un système durable qui a été vraiment créé pour l'endroit, par les gens de l'endroit. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et le fait que Great Green Wall a été créé par des Africains pour l'Afrique, je trouvais que c'était un message fort qui était envoyé aux générations plus jeunes, de il faut se prendre en main et construire le continent sur lequel on vit et investir dedans. Parce que l'Afrique n'est pas... c'est même pas controversé, ce que je veux dire. C'est une évidence. L'Afrique est le continent qui contribue le moins à la pollution de la planète. Mmh. Parce qu'il y a moins d'industrie pour mille raisons. Et pourtant, on fait partie des plus vulnérables face au changement climatique lié à cette pollution-là. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important de se rendre compte de ça et de voir aussi les schémas pour qu'on contribue à changer les choses, à faire changer les choses qui sont liées à nos modes de vie pour qu'eux ne payent pas nos pots cassés, en fait. Mmh. Je m'inclus dedans, même si je suis un pied... en Afrique et un pied en Europe, mais ma vie en tant que femme moderne contribue aujourd'hui au changement climatique, malheureusement, même si je fais beaucoup d'efforts pour que ce ne soit pas le cas. Il n'y a personne sur Terre aujourd'hui qui arrive à vivre sans porter... Voilà. Et donc, voilà, je parle beaucoup.
Je crois
hein.
que... Non, mais c'est l'idée. Et en fait... Encore une fois, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je crois que je me souviens plus précisément le chiffre, mais de mémoire, j'aime pas dire africain parce que tu vois, ça inclut tellement de personnes, mais on va dire africain versus européen, comme ça, on est au même niveau. Je crois qu'un africain en moyenne, de mémoire, son impact carbone, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça doit être une demi-tonne par an. Mmh. Et un français, c'est sûr, un européen, je pense que c'est un peu la même chose, c'est 12 tonnes. Mmh. par an. Et en fait, il y a une chose que tu dis auquel les gens n'ont pas conscience parce qu'on voit les réactions par rapport aux migrants, mm-hmm. avec ce rejet, cette peur de certaines personnes, mais quand même une bonne partie des gens, et qui pensent que voilà, c'est pas normal, etc. Mais en fait, on a vécu, on est en train de vivre les conséquences de notre consommation. Le Covid, ça en est une expression, parce qu'en fait, la mondialisation a permis la propagation de ce virus de manière très virulente. Et puis, effectivement, la migration climatique, c'en est une autre. Simplement, on a du mal à la reconnaître, parce qu'on se dit, oui, mais en fait, on a du mal à comprendre, je crois, en Europe, que les gens migrent pas parce qu'ils ont envie, mais parce que en fait on les a forcés à cause des modes de vie qu'on a en Europe, en grande partie quand même, et que du coup on a rendu leur vie sur place totalement impossible. Et ça, limite en fait, on pourrait se dire que les leaders d'extrême droite devraient promouvoir, tu vois, non mais c'est limite ça quoi, tu vois, c'est-à-dire, en fait, vous devriez promouvoir le développement de projets comme celui-là, parce qu'en fait aujourd'hui, et puis aussi réfléchir du coup à nos modes de vie à nous et de se dire, on va pas continuer à vivre comme ça, etc., etc. Donc moi, ça, je trouve ça un message vachement important. Et aussi, ce que tu dis sur les jeunes et sur le fait de... en fait, ce projet, il a commencé depuis assez longtemps, il se met en place, il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place. Ce qui m'intéresserait de comprendre, c'est vraiment de déconstruire peut-être les idées qu'on peut avoir sur les pays africains, tant sur la réalité du paysage finalement, et puis sur l'inventivité. On va y revenir, parce que moi aussi ça me porte vachement. J'ai vraiment la sensation que étrangement les portes de sortie pour différents pays, y compris l'Europe, peuvent se retrouver en Afrique, parce qu'ils ont inventé des systèmes justement beaucoup plus malins pour utiliser l'énergie, pour travailler entre eux. Et finalement, il y a, à mon sens en tout cas, beaucoup d'idées à aller chercher. Et typiquement, je parlais tout à l'heure du Covid, on s'est rendu compte que la manière dont les virus avaient été gérés en Afrique, il y avait plein de trucs à apprendre qu'on aurait dû mettre en place en Europe, et ça n'a pas été le cas, parce qu'on n'a pas voulu, entre guillemets, mais je pense que c'était complètement inconscient, mais de se dire, on ne va pas apprendre des pays africains. Tu vois, il y avait vraiment cette idée-là, alors qu'en fait, je crois qu'à l'inverse, il y a énormément à apprendre de l'expérience qui est allée en Afrique. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, tout ça. Mais...
Oui, complètement. Je pense qu'on réagit, en fait, dans les pays du Sahel notamment, on voit la vulnérabilité de la région du Sahel, avec tous les conflits, tout ce qui s'y passe. Prends par exemple le lac Tchad. Le lac Tchad, il alimente 4 pays. Et le lac Tchad s'est asséché de 50%, de 90%, pardon. Le lac Tchad s'est asséché de 90% en 50 ans. Ce qui est énorme. Et les pays qu'il alimente sont le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Et tout autour de ces pays-là, autour du lac Tchad, qu'est-ce qui s'est installé? Boko Haram et les groupes armés qui commettent des actes terroristes. Parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des gens qui sont autour de là. Et quand on prend le fait que 80% des gens dans des zones rurales vivent d'une forme ou d'une autre d'agriculture, on comprend leur désarroi et le fait qu'ils n'arrivent pas à combattre ces groupes et qu'ils en sont vraiment les victimes, entre les kidnappings, entre les rapts forcés des jeunes, des viols, etc. Et tout ça pour dire qu'il y a un impact qui est énorme de la vie moderne d'un Européen à la vie moderne d'un Africain ou rural. Parce que une tonne et 12 tonnes,
c'est une demi-tonne même.
Tu vois, c'est vraiment énorme la différence. Et dans les régions où tu vis dans des situations de survie, en fait, tu deviens inventif, tu crées un système ingénieux pour pouvoir survivre, parce que l'homme est un survivant. Et il ne va pas se laisser mourir comme ça, il va trouver des solutions. Donc il y a beaucoup à apprendre, notamment en Éthiopie, comme je disais, dans la région de Tigré. Il y a beaucoup à apprendre sur le système qu'ils ont mis localement pour de récupération d'eau et de gestion de leur eau, de comment est-ce que la communauté donne de son temps gratuitement pour travailler ensemble, pour en récolter les bénéfices après. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre de ça. Après, moi, j'aime pas mettre les gens en opposition. Je pense qu'on n'a qu'une planète, on est vraiment sur le même bateau. Et peu importe qui fait quoi, on va tous en payer les conséquences, d'une façon ou d'une autre. Mmh. Malheureusement, les pays les plus pauvres sont ceux qui payent le plus violemment les frais. Et aujourd'hui, quand on prend la migration, l'être humain a toujours migré, en fait. Quand tu peux plus vivre là où tu vis ou que c'est moins pratique, tu te déplaces. Et quand on voit aujourd'hui que dans le Sahel, la température d'ici quelques années va monter de 2-3 degrés, c'est énorme. Mmh. Donc, parce que ce sont des régions où les températures sont déjà très, très élevées. Et bien sûr, quand tu vois des gens qui te disent « Oui, il y a 20 ans, dans cette région, je cultivais et j'en avais pour toute l'année où je pouvais vivre avec ma famille. Aujourd'hui, je plante, mais rien ne pousse. » Et tu regardes l'endroit, tu te dis « Mais comment est-ce que c'est possible qu'il y a 20 ans, ici, on pouvait cultiver ?» Parce que moi, ça me semblait tellement aride. Et donc, on voit vraiment, mais on le voit avec nos yeux, hein, le changement du climat, l'impact que ça a sur la terre, sur les gens, les communautés, etc. Il y a un village au Sénégal où je suis allée, que beaucoup de gens appellent le village sans hommes. C'est au sens figuré, mais les hommes qui sont là sont des hommes en dessous de 18 ans ou des vieux, des grands-pères. Parce que tous les jeunes hommes, à partir de 17, 18, jusqu'à les hommes qui sont dans la force de l'âge pour aller travailler, sont tous partis du village. Il y a des femmes, des enfants et des vieux messieurs. Et en fait, tous ces jeunes sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Dans ce village, tu vois, rien ne peut y pousser, en fait. Et ils vont soit dans la capitale, soit dans d'autres villes, mais c'est tellement saturé. Et donc, ils ont beaucoup de jeunes hommes sont partis de là pour aller en Europe. Parce qu'il y a ce rêve où beaucoup ont entendu dire que c'était un genre d'Eldorado où quand tu vas, tu peux travailler et envoyer de l'argent pour que ta famille puisse survivre. Et il y a une dame avec qui j'avais parlé qui n'avait plus de nouvelles de son fils depuis 5 ans. Et très bizarrement, elle m'a dit « Ah, tu vis en Europe, mais tu connais mon fils ?» Elle m'a montré des photos de son fils.
C'est horrible.
Elle m'a dit son nom, etc. Et elle pensait que pour une raison ou pour une autre, j'aurais pu connaître son fils. Et dans ce qu'elle me racontait, ce que d'autres personnes m'ont raconté du village, son fils n'est certainement même plus en vie, en fait. Mmh. Ou sinon, il a été fait esclave quelque part en Libye et travaille sans pouvoir donner de nouvelles à sa famille. Donc, il y a tout un tas de trucs qui font que il faut que nos sociétés changent ensemble. Parce qu'on est tous en train d'en faire les frais. Et quand on voit des réfugiés qui arrivent aux portes de l'Europe, je pense que c'est primordial, à travers les médias déjà, qu'on dise aux gens pourquoi ces réfugiés sont là. Je les appelle volontairement des réfugiés parce qu'ils partent de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus vivre. Mmh. Quand on dit migrants, on enlève en fait le sens de leur migration, en fait. Parce que c'est juste des migrants. Les migrants, ils sont là. Ils sont là pour avoir du boulot, ils sont là pour avoir un peu plus d'argent. C'est pas pour aller s'acheter une chemise chez Zara ou... non, mais c'est vrai, c'est pas pour s'acheter un micro-ondes, c'est pas pour avoir des biens matériaux. C'est vraiment pour pouvoir bouffer et faire bouffer leur famille. Mmh. C'est-à-dire des choses qui sont basiques. Et ils sont là parce que la planète est en train de se réchauffer. Ils ne peuvent plus vivre là où ils sont nés, ils ont grandi. Ils doivent trouver des solutions. Et on doit trouver des solutions pour eux. C'est pour ça que c'est très important de créer des solutions localement. Mmh. Pour que les gens puissent avoir des opportunités, en fait. Parce que si tu n'as pas d'opportunités chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester là à attendre. Donc, c'est...
Bien sûr.
Et The Great Green Wall, c'est un de ces projets-là, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Et moi, j'encourage à ce qu'il y ait de plus en plus de projets comme ça. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir empêcher les jeunes de se lancer dans ce voyage de l'espoir. Parce que c'est un voyage de l'espoir. À un moment donné, j'étais à Agadez, au Niger. Il est porte du désert. Et je donnais des ateliers de musique dans un camp de réfugiés. Et j'ai discuté avec pas mal de jeunes là-bas qui étaient soit en train d'aller en Libye, et se sont retrouvés dans ce camp et ont envie de rentrer chez eux, dans, dans un pays, soit d'Afrique de l'Ouest ou même de l'Afrique de l'Ouest ou centrale, ou ont été récupérés dans le désert par l'armée, ou ont été... certains revenaient même de Libye. Et j'ai entendu des histoires à glacer le sang. C'est terrible. J'ai entendu des histoires d'esclavage moderne, des gens qui ont été vendus et qui travaillaient pour des gens sans pouvoir partir, sans être rémunérés. C'est de l'esclavage. Donc, et ça, c'était avant le... C'était en 2017 que j'étais à Agadez. Et après ça, il y avait eu ce fameux reportage de CNN qui montrait les gens vendus, etc. Et donc aujourd'hui, cette vulnérabilité, en fait, les contraint à se mettre dans des positions où ils se lancent. On voit les gens mourir en mer ou être dans des bateaux où on ne sait pas quel État va accepter de les laisser descendre, etc. Mais quand ils arrivent là, c'est la fin d'un voyage de l'espoir. Ce sont des survivants. Parce qu'avant ça, ils ont dû arriver aux portes du désert, soit au Niger, au Mali, en Algérie, au Maroc, etc. Ensuite, il y a la traversée du désert où il y a beaucoup plus de gens qui meurent dans le désert, soit tués par des passeurs parce qu'ils les ont abandonnés ou ils les ont tués, ils ont pris leur argent, soit ils arrivent à dépasser le désert. Ils sont pris en Libye et ils sont emprisonnés. Et les prisons libyennes font du chantage aux parents parce qu'ils te font appeler ta famille pour qu'ils leur envoient de l'argent et là, ils te laissent rentrer chez toi. Et si ta famille n'a pas l'argent, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es vendu comme esclave à des gens qui vont t'employer et qui vont te faire du travail forcé. Et si tu arrives à ne pas être chopé, à ne pas mourir dans le désert, à ne pas être fait prisonnier en Libye, que tu arrives en Libye à monter sur une embarcation et que tu ne coules pas dans la mer Méditerranée et que tu arrives en Europe, tu vois toutes ces étapes-là que tu arrives à... Et tu arrives là, on ne te permet pas de descendre du bateau. Ou sinon, on te prend et on te renvoie tout de suite chez toi ou n'importe où. C'est terrible.
C'est terrible. Tu sais, il y a cette phrase que j'ai en tête, qui est horrible, attention, beaucoup de personnes en France ont en tête, malheureusement, enfin c'est horrible, mais en Europe, je pense de manière générale, qui est « oui, mais nous, on ne peut pas prendre toute la misère du monde ». Tu vois cette phrase qui est immonde, parce qu'en fait, cette misère, c'est nous qui l'avons... Enfin, c'est nous, pays occidentaux, qui l'avons créée, en fait, cette misère.
Mais je répondrais à ça. Dans ce cas, on ne peut pas prendre toute la richesse du monde. Parce que la misère... Quand on voit, par exemple, le Congo... Quand on voit des endroits qui ont des ressources naturelles vitales pour le bon fonctionnement de la société en général, globale, que ce soit pas que l'Europe, mais du monde en général, aujourd'hui, on n'aurait pas de téléphone portable sans les ressources naturelles qu'on trouve que dans certains endroits en Afrique. Et après, on a aussi des choses, des objets de luxe comme les diamants. Les Blood Diamonds, c'est quelque chose dont on parle peu. Mais quand on regarde les pays comme la Guinée qui ont des mines d'or, des mines de ressources incroyables, de gaz, de choses qui devraient faire en sorte que les pays où ça se trouve soient riches, ce n'est pas le cas. Parce que ces richesses sont exploitées par d'autres que l'Africain moyen. Et j'ai envie de dire, en partenariat avec des gouvernements. Donc si aujourd'hui, ces ressources en Afrique, on en bénéficie en Europe, il faut qu'on regarde de plus près aussi la misère qui vient de là. Parce que le partage n'est pas équitable. Et moi, je vis une vie africaine et européenne. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et je suis consciente de ça. Les privilèges qui vont avec nos vies, bien sûr, toute la richesse de l'Europe n'est pas basée sur les ressources naturelles de l'Afrique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on profite beaucoup plus que beaucoup d'Africains des richesses de l'Afrique. Et donc, à un moment donné, il faut un système qui soit plus équitable pour que on puisse. On peut pas fermer les yeux sur ça. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas prendre la misère du monde, mais en même temps, en avoir les privilèges. si on a les privilèges, ben, on partage, en fait. À un moment donné, c'est un chien qui se mord la queue. C'est un chien qui se mord la queue. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer parce que... avant, on pouvait le mettre sur le compte de l'ignorance. Mais aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, l'information, elle est là pour qui veut chercher. Mais je pense qu'il faut que l'information devienne plus mainstream, en fait. Qu'on partage un peu plus quand on parle de la migration, quand on parle des réfugiés, qu'on rentre un peu plus dans le détail des différentes raisons pour lesquelles ils arrivent en Europe. Parce qu'avant que les Africains arrivent en Europe, les Européens sont arrivés en Afrique. Par exemple, quand on parle de la colonisation, c'est un peu tabou aujourd'hui de parler de la colonisation. Mais il y a des gens qui, j'ai entendu des choses horribles aussi, où les gens disent « Oui, mais les bénéfices de la colonisation, ça a apporté l'éducation, ça a apporté ceci, ça a apporté cela. » Mais ce qui est terrible à dire, mais il faut pas oublier, on peut parler du passé quand elle a encore des conséquences aujourd'hui. Quand on me répond que la colonisation, oui, mais il faut arrêter de vivre dans le passé, j'aimerais bien qu'on n'en parle plus, parce que ça voudrait dire que ça n'a plus d'impact aujourd'hui. Moi, je viens du Mali et notre monnaie, c'est le franc CFA. Donc, le franc CFA, ça veut dire quoi? C'est le franc des colonies. On paye encore une taxe sur notre monnaie. Donc, à un moment donné, quand ta monnaie, elle est fabriquée par la Banque de France, où est ta liberté aujourd'hui? Quelle indépendance tu as vraiment dans la réalité des choses? Donc, c'est un débat qui est beaucoup plus profond, donc j'ai pas envie de rentrer superficiellement dedans. Peut-être qu'on en parlera sur un autre épisode, mais aujourd'hui, je pense que c'est très, très important qu'on soit européen ou africain ou américain ou asiatique, qu'on se voit vraiment comme étant ensemble à combattre les effets néfastes du changement climatique. Parce que c'est ensemble seulement qu'on va y arriver. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas « je veux pas regarder ça, me regarde pas », parce que ça nous regarde tous. On vit tous des conséquences.
En fait, et juste pour rebondir sur ce que tu disais, et pour bien faire comprendre... faire prendre conscience aux gens, parce que je suis même pas certain que tout le monde soit au courant, mais il y a beaucoup de légumes bio pour les Européens qui sont fabriqués, enfin produits en Afrique. Nous, on va chez Bio C'est Bon ou je ne sais où, mais en fait, ou Naturalia ou je sais pas quoi. Mais en fait, ces produits-là, ils sont faits en Afrique. Les fleurs, beaucoup aussi. Ouais. On adore mettre des fleurs coupées, ça fait tellement un peu de nature dans la maison, c'est joli, etc. Mais ces fleurs-là, elles sont produites où? Elles sont aussi produites en Afrique. Elles sont ramenées en avion frigorifié, donc ça pollue une tonne. Et puis ça aussi, comme on fait de la monoproduction, du coup, on détruit les terres arables. Comme on l'a fait en Europe aussi d'ailleurs, enfin de la monoproduction, ça détruit les terres arables. Et oui, c'est pour notre propre plaisir. Et c'est vrai que moi aussi j'aime bien les fleurs. Hein. Je trouve ça très joli.
Moi j'adore les fleurs.
Et j'aime bien manger bio aussi. Il y a pas de jugement, mais c'est juste prendre conscience. Ce que tu disais, je trouve que c'est très fort de dire on peut pas recevoir toute la misère du monde, mais dans ce cas-là, on peut pas prendre toute la richesse du monde non plus. C'est à mon sens une phrase hyper forte. Enfin, je trouve que c'est, tu vois. Je pense que les gens ne le voient pas nécessairement comme ça, en tout cas.
Oui, moi je pense que les gens ne le voient pas nécessairement et on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas revenir au Moyen-Âge pour sauver la planète. Ce n'est pas possible. Et moi, je n'aime pas culpabiliser les gens pour leur mode de vie parce qu'on a tous envie d'avancer. Je pense qu'on est juste à un stade où c'est important de se poser des questions sur notre fonctionnement, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut avoir des fleurs sans que ça pèse autant sur d'autres vies, comment est-ce qu'on peut continuer à manger bio sans que ça pèse, redonner un peu et repartager un petit peu de notre confort et de comment est-ce qu'on vit. Et surtout, quelques petites modifications peuvent commencer déjà à équilibrer les choses. On a environ une dizaine d'années, comme on dit, pour faire en sorte qu'on n'aille pas complètement dans le mur et que ça ne soit pas, qu'on n'arrive pas à un point de non-retour pour la planète. Mais j'ai envie de dire, c'est pas juste pour la planète, c'est aussi pour l'évolution de l'être humain. L'être humain a évolué en permanence. Là, on a l'impression qu'on ne peut pas faire quelques micro-changements dans nos vies, mais on a commencé homme de caverne, hein. Donc aujourd'hui, on peut très bien se passer de certaines choses ou modifier certaines choses. Et pour pouvoir modifier, il faut se poser des questions. Il faut en fait adapter notre mode de vie sans faire non plus des changements. On ne va pas retourner au temps des pierres, c'est sûr. Mais on peut, grâce aux nouvelles technologies aussi, évoluer et prendre en main notre destin. Parce que c'est aussi notre destin, hein, même si on ne vit pas les affres et les souffrances tout de suite directement, on est concerné aussi.
En fait, il y a aussi ça que tu dis. Et moi, tu sais, je ne parle pas trop de sauver la planète ou je parle de moins en moins d'écologie parce que pour moi, en fait, la question écologique, elle s'intègre dans un grand ensemble qui est le vivant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends. Et je ne parle pas du vivant comme peuvent leur en parler des spécistes ou quoi, mais le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire le développement du féminisme, le respect du vivant, que ce soit des plantes, des autres animaux, des humains, etc. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que... Et Thomas Pesquet dit ça aussi, enfin, tous les gens qui vont dans l'espace le disent, c'est que c'est une petite bulle bleue, finalement, qui est assez petite et qui est quand même toute seule dans l'univers, qui est très noire, lui, pour le coup. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de nous monter les uns contre les autres, et c'est peut-être un sentiment... facile la peur de dire ben non mais en fait puisqu'il va y avoir de moins en moins il faut qu'on se protège pour garder au moins ce qu'on a mais en réalité je pense que ce que les gens et pour faire écho à ce que tu disais tout à l'heure ce dont les gens en Europe n'ont pas nécessairement conscience c'est qu'en Europe on a peut-être beaucoup d'idées on se sent très malin mais on n'a pas d'énergie en l'occurrence enfin on a le nucléaire mais le nucléaire juste pour rappel c'est 80% de notre énergie électrique, mais l'électricité, c'est 20% de l'énergie. Donc, en fait, total de ce qu'on consomme. Donc, en fait, le nucléaire, ça représente 16% de l'énergie qu'on consomme. Donc, ça représente pas les... Il en manque quand même un petit bout de l'autre côté. Et en fait, l'énergie, elle vient d'où? En fait, il y a un peu de charbon, effectivement, en Pologne. Il y a un peu encore de gaz dans les mers du Nord, mais il n'y en a plus trop. Donc nous les premiers, on va avoir un petit problème technique d'énergie. Donc si on se met pas d'accord avec des pays, par exemple en Afrique, où il y a de l'énergie et où on va chercher, ce que tu disais, tu vois des énergies fossiles, donc du charbon et d'autres choses, on va se retrouver ou du pétrole, on va se retrouver bloqué en fait bien avant le continent africain. Alors que le continent africain, en plus, vous avez mis en place des méthodologies. J'allais dire entre guillemets maline, mais en tout cas de consommation sobre, de sobriété, qui vous permettent en même temps d'avoir un mode de vie moderne, en tout cas pour certains. Et encore une fois, ce que tu disais, c'est qu'il faut qu'on avance ensemble. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau message et c'est marrant parce que j'ai reçu un mec qui s'appelle Eric Julien, qui est un géographe qui est spécialiste des Indiens Kogi, tu sais, qui sont en Amérique centrale. Et eux, ils disent la même chose. Vous nous avez décimés, nous avez détruits, etc. Mais nous, on veut juste avancer ensemble. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Mm-hmm. Et les seuls qui ne veulent pas avancer ensemble, c'est les Occidentaux, finalement. J'ai l'impression qu'ils se sentent plus malins que la moyenne.
Mais il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'il faut avancer. Et j'ai envie de dire que la pandémie de la COVID a en fait... ouvert un petit peu l'horizon de beaucoup de gens. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on est ensemble dans le même bateau, là. Et qu'on doit y faire face ensemble. Parce qu'il n'y avait pas question de couleur, de peau, d'âge, de classe sociale, de porte-monnaie, etc. N'importe qui pouvait attraper le virus. Et il y a eu ce truc où on a commencé à regarder, à s'intéresser à ce qui se passait chez les voisins, vraiment. À ce qui se passait de l'autre bout de la Terre. Beaucoup de gens le faisaient déjà, mais là, c'était vraiment quelque chose de encore plus global et encore plus poussé. On s'intéressait à des gens où d'habitude, c'était pas forcément le centre d'intérêt. Donc, petit à petit, on a commencé à regarder, je m'inclus dedans, même si je faisais déjà bien attention avant à ce qui se passait. Mais beaucoup de gens ont commencé à se dire « Ah, mais... on est pareil, en fait. On a les mêmes problématiques, on a les mêmes... Et ça a soulevé, en fait, des problèmes qui avaient été mis sous le tapis. Beaucoup sont remontés à la surface. Comment on se disait tout à l'heure, avant de commencer le podcast, on est dans une période de transition. Et les problématiques qu'on est en train de auquel on est en train de faire face aujourd'hui, que ce soit le racisme, le manque d'égalité, la pauvreté, etc. C'est des problématiques qu'il faut pouvoir adresser et commencer à gérer pour pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, pour tout ce qui est autour du climat, de l'environnement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter de voir. Quand on voit les jeunes générations, la génération de Greta et tous ces jeunes de la génération Z qui sont dans la rue et qui demandent à ce qu'on ne leur laisse pas une planète pourrie, je les comprends tellement. Je les comprends tellement. C'est une génération qui risque de subir ce que la génération de nos parents ont commencé à mettre en place, celle d'avant, parce qu'on n'en avait pas conscience. Mais aujourd'hui, on a l'information, donc on peut vraiment changer les choses. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est le moment vraiment de, avec les nouvelles technologies, tout ce qu'on a à disposition dans ce monde moderne, de pouvoir faire quelque chose, quoi. Sans y perdre trop, hein.
Non. Je pense que, en fait, moi, j'avais écrit ça dans mon bouquin, mais où je disais, en fait, on considère l'écologie comme punitive, mais la société dans laquelle on vit, elle est punitive. Donc, c'est pas comme si c'était un moins, on va d'un plus vers un moins, on va d'une situation A à une situation B, avec des plus et des moins des deux côtés, en fait. Il y a pas de, peut-être que, enfin, ce dont tu parles, tu vois, qui sont des valeurs pour moi hyper, j'allais dire moderne, mais sans doute pas moderne, en tout cas post-moderne, qui sont le collectif, qui sont la sobriété, qui sont la nature, et qui sont tout ça derrière, représentés derrière ce projet. En fait, c'est vers ça qu'on a besoin d'aller, et en fait, du coup, on a besoin d'y aller, évidemment, de manière collective, et donc tous ensemble. Tu peux pas y avoir un truc intermédiaire, c'est impossible. Et pour revenir sur le projet, ça fait combien, ça fait combien d'années que ça a commencé, ça fait combien d'années que c'est en cours, et où est-ce qu'on en est à peu près, parce que je sais que ça dépend des pays, mais
c'est un projet qui a commencé en 2007. Il était en réflexion déjà à la fin des années 90 et en début 2000. Et en 2007, l'Union africaine a lancé The Great Green Wall. On appelle en français la Grande Muraille verte. Et au départ, il y avait 11 pays. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont très, très avancés, comme le Sénégal, l'Éthiopie, etc. Il y a des pays qui sont très, très en arrière pour diverses raisons, comme le Mali.
Est-ce que tu disais
parce que le terrorisme est très présent dans la région du Sahel. Donc, parfois, les États doivent faire face à une urgence qui est la sécurité plutôt que ça. Mais l'un va avec l'autre, en fait.
Bien sûr.
On s'en rend compte avec le temps. Donc, aujourd'hui, l'idée est que d'ici 2030, le projet soit quasiment achevé à 90%. Donc, restaurer les terres dégradées, arrêter l'avancée du désert du Sahara et redonner un peu aux communautés qui sont le long de cette grande muraille verte des opportunités et créer comme ça, des mosaïques de projets le long. On appelle ça la grande muraille verte parce que on se dit que quand le projet sera achevé de l'espace, il sera visible. Et c'est sur 8000 km, mais c'est des millions d'hectares de terre qui vont être restaurés et permettre aux gens à nouveau de ne pas migrer comme ça. Parce que les conséquences de ça, c'est que si tu ne peux pas vivre plus d'une année, deux années d'affilée dans le même endroit, les communautés qui deviennent nomades comme ça, comment est-ce que les enfants vont à l'école ? Comment est-ce que tu mets en place un système d'éducation ? On a envie que les enfants qui étudient puissent prétendre à pouvoir devenir des avocats, des docteurs, de ce qu'ils veulent. S'ils sont en train de passer 2-3 heures par jour à aller chercher de l'eau des kilomètres à pied, au lieu d'être en train d'étudier, comment est-ce qu'on construit un continent ? Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont liées à ça et qu'on essaye de... auquel on essaye de répondre avec ce projet.
Et on essaye aussi de le descendre. Après, l'idée, c'est de le descendre ou du nord. Parce que là, c'est parti d'ouest en est.
Ouais.
Mais on peut aussi l'envisager
absolument.
De nord au sud. Ou
alors, depuis quelques années, il y a d'autres pays qui se sont rajoutés aux 11 pays fondateurs. qui ne vivent pas forcément dans la région du Sahel, mais qui pensent que c'est un projet qui est intéressant à mettre en place sur place pour prévenir justement ou pour aider les communautés, parce que les communautés rurales, l'agriculture est quelque chose de très important. Donc on voit que ramener des opportunités en Afrique, ça va beaucoup aider le continent à se construire en fait.
Et on parlait tout à l'heure, tous les deux, de l'engagement, parce que ça, c'est quelque chose qui... En fait, j'ai fait cet épisode avec Abdelmalik, que tu connais bien par ailleurs, mais où il parlait de l'engagement des artistes et du rôle des artistes dans la transformation de la société. Et ce que tu me disais, c'est que toi, ça fait très longtemps finalement que tu es hyper engagé dans plein de sujets, en particulier le féminisme, mais aussi évidemment le continent africain parce que tu en viens, et donc naturellement bah, c'est quasiment évident, quoique bon, c'est pas forcément toujours le cas, mais voilà. Et ce qui est intéressant de voir, et je trouvais que ça valait le coup qu'on en discute tous les deux, c'est l'évolution des mentalités par rapport à l'engagement, parce qu'en fait quand tu as commencé, toi tu étais une chanteuse qu'on estimait être fraîche, voilà, qui apportait du soleil.
Le soleil de l'Afrique.
C'est ça. Tout ce qu'on attend de, tu vois, d'une belle fille, voilà, mais qu'elle n'ait pas trop d'idées non plus, quand même. Non, mais c'était un peu ça, quand même. Et en fait, c'est intéressant de voir l'évolution, ce que tu as vécu, toi, au début, et ce que tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la base, ben, on était là, genre, oui, enfin bon, cette partie-là, en fait, on ne va pas trop en parler, parce que ça ne t'intéresse pas. Tu peux en parler un peu ?
Mais alors. Déjà, j'adore Abdelmalik. Je pense que c'est un artiste qui est extraordinaire et qui est une grande inspiration pour moi. Parce que, à travers sa réflexion, son art, il arrive à faire évoluer les mentalités. Moi, je pense que l'art, ça sert aussi à ça. Et effectivement, moi, en tant que femme, en tant qu'africaine, etc., ma parole, elle était. Quand je chantais des chansons pop que j'aime beaucoup, hein, c'est moi qui les ai écrites, donc que j'étais vue comme la chanteuse pop fraîche et ensoleillée et toujours souriante, etc., et positive, chose que je suis, ça posait pas de problème. Disons que ce que je disais n'était pas dérangeant. Mais à partir du moment où j'ai commencé à mêler mon engagement à ma musique, même si je le faisais de façon différente, parce que depuis mon premier album, je parle de sujets de société, je parle de suicide, je parle de mental health, je parlais de beaucoup de choses différentes dans ma musique, mais beaucoup de gens voyaient le côté coloré et joyeux que j'ai, qui ne me gêne absolument pas. Mais à partir du moment où j'ai commencé à parler de violences faites aux femmes, ça a été perçu différemment. Parce que du coup, j'étais un peu trop dark. Les sujets dont je parlais étaient un peu trop lourds, en fait. Pas assez légers.
C'est 2013, c'est ça ?
C'est à partir de 2013-2014. Je me souviens que j'avais...
C'était pas tendance.
Non. Les violences faites aux femmes, on n'en parlait pas tant que ça. Et heureusement, aujourd'hui, ça a changé. Notamment avec les différents mouvements qu'on a vus voir le jour pour le droit des femmes, contre les violences, etc. Mais en 2014, je me souviens que j'avais fait un projet qui s'appelle La Valse de Marie-Laure. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très, très, très drôle, parce que quand j'ai fait La Valse de Marie-Laure, c'est ce couple dans la vidéo, pour les gens qui auront envie de le regarder, c'est sur YouTube. Il y a ce couple qui se lance dans cette espèce de danse qui commence par une danse amoureuse et qui finit par être violente, etc. Et ça raconte l'histoire de trois couples différents face à la violence. Et je me souviens que ça n'avait pas trouvé un grand écho à l'époque. Et j'avais pas voulu la mettre à vendre sur iTunes parce que j'estimais que je parlais de sujets qui étaient tellement importants et j'avais pas envie de gagner de l'argent dessus. Donc je l'ai offerte. Et la chanson, je me souviens que du coup, les gens, que ce soit même des gens qui me suivaient ou certains médias, etc., m'avaient trouvé un peu moins fraîche et pop et légère et moins fun. Et ça n'avait pas eu un grand écho. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens parlent de violences faites aux femmes. Heureusement, parce que c'est un des plus grands traumas qu'on a dans la société. Il y a des enfants qui vivent, qui grandissent dans des maisons où il y a cette violence qui est présente et qui les brise et qui crée un danger pour la génération d'après, pour leur propre maison et leur propre famille quand ils vont la créer. Donc, heureusement, les choses ont changé. Heureusement que beaucoup plus de gens en parlent. Après, l'engagement est quelque chose qui aujourd'hui est plus bienvenu que ça l'était à l'époque. C'est même parfois un peu exigé. J'ai vu qu'il y a des gens qui s'offusquent quand certains artistes ne sont pas engagés ou ne veulent pas, refusent de s'engager par rapport à des choses d'actualité. Et oui, on est dans une société engagée. Après, je ne parlerai pas de l'engagement performatif qui aussi existe, parce que ça devient, à un certain moment, ça devient aussi une forme utilisée un peu comme du marketing par des marques ou par des artistes pour un peu
pour dire, exister.
Pour exister. Ça, c'est aussi quelque chose qui est là, mais bon, c'est une petite minorité de gens. J'allais dire une petite majorité. Quel lapsus.
Non, c'est une petite... Je pense que c'est un peu la réalité. C'est un petit peu une petite majorité.
je suis quelqu'un de positif, disant que c'est une petite minorité de personnes et de marques qui est performatif. Mais j'espère qu'avec l'éveil comme ça de la société, on va... réussir à tempérer les choses, on va arrêter d'invectiver des artistes ou des marques qui ne s'engagent pas, les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, mais on va aussi s'engager de façon saine et laisser les gens qui ont envie de parler de choses qui leur tiennent à cœur, les laisser faire en toute liberté, quoi. Moi, j'ai perdu beaucoup, J'ai perdu beaucoup en mettant mon engagement comme ça, mais je ne le regrette absolument pas. J'ai commencé à être engagée pour les femmes, les droits des femmes et des filles, en Afrique, mais aussi en Europe, quand j'ai eu 19 ans. Quand j'ai réalisé que j'étais excisée, ce que ça aurait comme impact sur ma vie, je me suis dit, à l'époque, je pensais que je pouvais rien faire pour moi. Je savais pas que la chirurgie reconstructrice...
D'ailleurs.
La chirurgie réparatrice existait, je ne savais pas. Donc, je me suis jetée dedans, parce que ça me permettait d'avoir un peu... un impact contre ça. Je me suis dit, si pour moi c'est trop tard, je veux faire en sorte que d'autres petites filles et d'autres femmes ne vivent pas la même chose que moi. Donc à 19 ans, j'ai commencé comme ça, à être engagée. Et mon père est féministe, ma mère est féministe. Donc j'ai grandi dans un environnement où pour moi, c'était pas une grosse rébellion, mais c'était important à faire. Et autour de moi, je me souviens que mes potes de 19 ans étaient soit des gens très engagés ou n'en avaient rien à faire, mais ce n'était pas un problème. Et parallèlement, ma vie d'artiste, je le faisais aussi. Mais à partir du moment où les deux se sont rencontrés, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu le statut public que j'avais. C'est-à-dire que ma musique a été moins jouée parce qu'elle était moins... moins fun, mais par contre, mes concerts se remplissaient beaucoup plus. J'avais de plus en plus de gens qui venaient me voir en concert. J'ai pu, avec cet album qu'on m'avait prédit ne se vendrait pas, parce qu'on m'avait dit avant la sortie de l'album que j'en vendrais très peu, parce que c'était un album qui était trop dark, c'était un album qui était en bambara, donc tu vois, c'était pas marketable, soi-disant. Et j'ai produit pour la première fois avec mon mari ma tournée. J'ai fait plus de 230 dates sur les 5 continents, en étant headliner sur les plus gros festivals. Donc à un moment donné, il y avait une contradiction énorme dans le fait qu'on me disait « Attention, tu joues ta carrière en l'ouvrant un peu trop, en parlant de sujets qui me concernaient, parce que je suis une femme, je suis une femme noire ». Donc, toutes ces choses-là me concernaient. Donc, le fait d'en parler, c'était vu comme tabou. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre les choses si tu veux vraiment faire bouger un petit peu les choses. Et c'est juste à mon échelle, hein. C'est une toute petite échelle, mais j'ai toujours trouvé que c'était important que je puisse emmener ma petite pierre à l'édifice. Et si d'autres personnes le font, tous ensemble, on va pouvoir réussir à créer quelque chose qui sera grandiose. Moi, toute seule, c'est une toute petite pierre. Mais j'ai quelque part pris le pari de mettre en danger ma vie et ma carrière et pour ça. Et j'ai perdu beaucoup momentanément sur quelque chose. Tout de suite, c'était évident.
Immédiat, ouais.
Je suis passée de quelqu'un qui passait en radio un milliard de fois par jour à plus du tout. Mais ça m'a tellement consolidée en tant qu'être humain. Ça m'a renforcée, ça m'a permis d'avancer encore plus dans mon engagement. Et aujourd'hui, mais si c'est à refaire, je le referai mille fois.
Mmh.
Parce que ce que tu perds, tu le reconstruis d'une façon différente, en fait. Et la société est en train de changer, donc on se retrouve à un moment donné sur le chemin, de toute façon.
Mais oui, maintenant c'est cool d'être engagé.
Mais c'est...
Mais tant mieux, hein.
Je sais pas si c'est cool, hein, parce que...
C'est cool, mais pas trop quand même.
Ouais, je peux dire que 50% de ma vie est consacrée à mon engagement. L'autre 50% est consacrée à ma vie perso et à mon art. Et je me prends des baffes, je me suis pris des baffes depuis que j'ai 19 ans. C'est pas forcément des choses que je mets en avant, mais quand tu es engagé comme ça sur le terrain... attends-toi à ce que ça soit pas rigolo, attends-toi à ce que ça ait un énorme impact sur ton mental. Parce que, surtout, les violences faites aux femmes, quand tu parles à des femmes victimes de violences, ça réveille ton propre trauma. Il y a des choses qui sont des vrais triggers pour ton trauma. Et entendre, je me souviens qu'on avait créé des groupes de parole à la Maison des Femmes qui existent encore. À un moment, j'y allais au début. À un moment, je ne pouvais plus y assister parce que chaque parole de femme réveiller mon propre trauma. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux plus aider là parce que je suis moi-même en train de crouler. Et heureusement, Rada est quelqu'un de tellement solide qu'elle m'a tout de suite rattrapée et on se parle beaucoup et je ne suis pas une professionnelle. Donc, être sur le terrain, ça a ses conséquences aussi. Et puis, pareil pour l'environnement, quand ce voyage de Great Green Wall, du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie, je porte encore des histoires de gens rencontrés le long du voyage sur mes épaules. Tous les jours, j'y pense. Il y a des histoires qui encore représentent un trauma pour moi. Un trauma minime parce que eux, ils le vivent. Moi, on me l'a raconté. Mais juste par...
empathie.
Par... oui, non, par... comment dire ?
Transmission.
Par, oui, c'est un genre de... Je l'ai vécu à travers eux, donc c'est vraiment minime. Je devrais même avoir honte de porter le trauma en moi. Mais ça m'a tellement pesé. Imagine eux. Imagine eux. Quand tu entends des histoires de femmes qui ont été trafiquées sexuellement, qu'elles ont été bernées, on leur a dit qu'elles partaient en Europe. Pour être assistante, pour faire des jobs qui les faisaient rêver, ou juste cuisinière, quelque chose qui les passionnait, et qu'en fait, elles étaient en train d'être trafiquées pour devenir prostituées en Europe. Tu parles avec ces femmes qui te racontent leurs histoires, ça te reste quelque part sur l'épaule. Moi, je les porte, ces femmes-là. Et à un moment donné, l'engagement, il peut être traumatisant, donc il faut le faire avec attention. Il faut, dès qu'on se rend compte que ça devient un poids lourd, faire un genre de break, parce que si tu ne tiens pas mentalement, tu peux aider personne. Donc moi, j'ai eu régulièrement des coups de breakdown comme ça mental, où tu te dis, oh, mon Dieu, je ne vais pas bien. Et tu te rends compte que c'est des choses que tu... Donc l'engagement, c'est pas cool, mais c'est nécessaire et c'est pour ceux qui ont envie de le faire, en tout cas.
Non, je disais, c'est cool de le dire, en tout cas. Mais c'est vrai que ce que tu décris, tu le retrouves beaucoup chez les thérapeutes, qui, d'abord, il y a un besoin d'ancrage, et puis il y a besoin de se laisser traverser par les histoires des autres sans les retenir en soi, et c'est ça qui est le plus difficile. Hein,
c'est ça qui est difficile.
Hyper dur.
parce que je ne suis pas professionnelle, donc
mais même quand t'es professionnelle,
je suis juste une nana qui met mes baskets et je vais dans des endroits reculés rencontrer des gens extraordinaires qui ont des choses à dire et des choses à m'apprendre aussi. Mmh. Et moi, en fait, avec ce Great Green Wall, je suis vraiment, vraiment, vraiment que quelqu'un qui répète leurs histoires, qui partage leurs histoires. J'ai zéro mérite, en fait. Non, c'est vrai. Dans le fond, j'ai pas le mérite que... Eux, ils sont vraiment en train de changer les choses. Moi, je m'utilise comme vecteur, en fait, pour partager leurs histoires, pour partager chacun sa place. Et dans ce Great Green Wall, je suis plus un messager plutôt que... Bon, aujourd'hui, je suis aussi acteur parce que j'aide à attirer l'attention sur ce que c'est et j'aide à lever aussi de l'argent pour que le projet se fasse. Donc, je deviens plus acteur, mais... même nous, on les accompagne, en fait. Ceux qui vivent sur le terrain et qui... J'étais interviewée deux ex de Boko Haram au Nigeria. Et en fait, quand je les ai rencontrés, ça... Déjà, pour aller les rencontrer, c'était un voyage de nuit avec une toute petite équipe, vraiment très secret, parce que c'est dangereux. Mais ce qu'ils m'ont dit, mais ça a écroulé, ébranlé toutes les certitudes que j'avais, en fait. Parce que je me suis retrouvée face à deux faces de la même médaille. Une jeune femme et un jeune homme. La jeune femme avait 17 ans, le jeune homme avait 16 ans. Tous les deux enlevés par Boko Haram. La jeune femme avait été enlevée quand elle avait 13 ans par Boko Haram, mariée de force à un combattant trois fois. Parce qu'on te marie, si ton mari va au combat... piller des villages, etc., qu'ils meurent. Ils attendent 40 jours pour s'assurer que tu n'es pas enceinte, te remarient. Donc, elle a subi trois mariages forcés. Et viol, etc., mal nourrie, battue, toutes les horreurs qu'on peut s'imaginer. Et le jeune homme a été kidnappé, pareil. Son père, ses frères, son village a été décimé, brûlé, etc. Lui a été enlevé, mais il a été groomed, il a été entretenu, il a été valorisé. On lui donnait des petites tâches. Au début, c'était surveiller les bêtes, nettoyer les armes. On lui a donné de plus en plus de responsabilités. On l'a formé petit à petit pour devenir un combattant. Donc, il était bien traité. Et quand elle me racontait son histoire, j'avais tellement d'empathie, chose qui est normale. Tu ressens de l'empathie. Mais nos cerveaux ne sont pas faits pour ressentir de l'empathie pour ce jeune homme de 16 ans qui nous racontait qu'il avait tué des gens, qu'il le regrettait. Mais sur le coup, quand il me racontait tous les meurtres qu'il avait commis, qu'ils étaient allés brûler des villages, qu'ils étaient allés commettre tout ça. Et il le disait en souriant. Et j'avais une espèce de rage qui montait, une colère. Et je lui dis, mais tu le dis en souriant, est-ce que tu as des regrets? J'avais les boules. Et en fait, il me dit, mais Boko Haram, en fait, ce sont les premiers qui m'ont appris quelque chose, qui m'ont valorisé. Je n'ai jamais été à l'école avant ça. Il a été kidnappé à l'âge de 9 ans. Et ils m'ont donné à manger, ils m'ont... Et là, je me suis dit, en fait, la société a failli à cet enfant. Parce qu'à 9 ans, kidnappé, et que ce soit un groupe armé terroriste extrêmement violent qui lui ait appris quelque chose dans la vie, c'est terrible quand même. Et donc, la femme, mon amie qui était avec moi, qui Amsetou, qu'on appelle la femme qui parle à Boko Haram, parce que c'est une des rares personnes qui arrive à avoir une conversation avec eux, m'a dit, tu sais, c'est le psychologiquement l'impact qui est laissé sur ces jeunes enfants kidnappés est tellement grand qu'ils sourient, mais c'est pas parce qu'ils se rappellent avec plaisir, c'est juste que c'est un trauma que son esprit ne peut pas encore gérer. Et aujourd'hui, après avoir quitté Boko Haram, aujourd'hui, il est toujours maltraité par la situation qui le... par la société qui le voit comme un ancien Boko Haram. Il a que 16 ans, mais il est vu comme un tueur, il est vu comme une des pires choses. Mais quand tu vois, en fait, quel espoir il a, ce jeune homme, aujourd'hui. Moi, ce qu'il me disait, c'est que tout ce que je voudrais, c'est apprendre un métier, pouvoir gagner ma vie et devenir un homme décent. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment deux facettes de la même médaille. Et dans les deux cas, ils ont été faillis par la société. Et parce que... ils sont dans des régions très vulnérables et que les groupes armés qui sévissent dans le Sahel Mais c'est ce qu'ils font, en fait. Ils tuent, ils brûlent, ils pillent, ils kidnappent des jeunes femmes. Donc on a entendu parler des jeunes femmes. Il y avait ce hashtag qui avait été très familiarisé par Michelle Obama, qui était « Bring back our girls ». Et le nombre de filles et de garçons qui sont kidnappés, il y en a énormément. Et ça, c'est aussi une conséquence du climat qui change. Parce que c'est, comme je disais, le lac Tchad, il s'est asséché de 90% en 50 ans, sans qu'on puisse rien y faire. Donc les 10% qui restent, ben, les gens ne peuvent plus pêcher, les gens ne peuvent plus pratiquer l'agriculture comme il faut. Ils sont de plus en plus pauvres, ils sont de plus en plus démunis. Et si on ne fait rien pour eux, ben, certains vont vouloir... quelqu'un va voir plus de bénéfices à rejoindre un groupe armé que de les combattre, en fait. Donc, il y a tellement de choses qui... Aujourd'hui, quand je suis... Après avoir fait cette interview, je me suis dit moi-même, mais ton esprit, il était déjà formaté pour détester ce jeune homme, en fait, sans même penser à tout son parcours et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande déconstruction de tout ce qu'on connaît, qui doit se faire généralement, et réapprendre les choses, voir encore plus loin et voir toujours, garder en tête l'effet papillon, que chaque petite action qu'on a les uns les autres, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, on est fort en fait et on a un impact. J'entends des gens dire « Ouais, mais moi, je peux rien faire. » On peut tous faire quelque chose, parce que si chacun fait un petit peu, ben, ça deviendra grand. Et ça, je pense que c'est amplifié encore avec Internet et les réseaux sociaux. Avec les nouvelles technologies, on peut vraiment changer les choses. Donc, on a le pouvoir. Je me rappelle que... en grandissant, j'ai envie de dire, parce qu'à 19 ans, t'es encore un enfant pour moi. Mais en grandissant, avec toutes mes idées, on me disait « Ouais, mais t'es tellement naïf, tu penses que tu peux changer le monde. » Mais en fait, vouloir changer le monde, c'est pas de la naïveté. C'est du courage. Il te faut... parce que tu vois, on pense que tu ne vois pas tout ce qui est terrible et difficile. Que tu vois la vie en rose, mais tu vois la vie pour toutes les couleurs qu'elle a. Et le sombre en fait partie. Et c'est une tâche qui est très difficile. Et qu'on soit artiste, pas artiste. Je veux dire, en tant que civil du monde, ben, on a chacun nos cartes à jouer. On a chacun notre mot à dire, quelque part. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut tous, avec un téléphone portable, avoir quelque chose à dire. Bon, on a parfois des choses qu'on ferait mieux de ne pas dire, mais... j'ai envie de dire, on a chacun la parole, quoi. Mmh. Et on peut l'utiliser à bon escient. On peut vraiment faire changer les choses. Et commencer à croire en ça, c'est arrêter d'être condescendant avec les gens qui veulent faire changer les choses, en disant, ouais, mais c'est naïf, ouais, mais c'est idéaliste, ouais, mais c'est pas possible. Ça, c'est un manque de courage, en fait. Parce que ça, c'est regarder pas plus loin que le bout du nez en disant « je peux rien faire de toute façon ». On peut tout se faire. Si on a envie, après, on peut aussi ne pas avoir envie et c'est OK. Hein. Il y a des gens qui travaillent pour 10 pour ça.
Ouais, majoritairement, les gens font rien, mais effectivement... Non, mais c'est vrai.
Il y a de plus en plus de gens qui font choses.
Il y a des gens qui font, bien sûr.
Voyons ça comme ça. Il y a de plus en plus de gens
Mais la majorité, ils essaient de survivre, tu vois. Donc,
ouais, c'est vrai.
Tu vois, c'est... Bon, j'ai pas...
La vie est dure pour tous, hein. Même pour les plus privilégiés, ça peut être très dur. Donc, il faut prendre en compte le fait que les problèmes mentaux sont de plus en plus, de moins en moins ignorés. Et il y a des gens qui n'ont pas le bagage nécessaire, qui ont déjà leur propre bagage et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, et je le respecte tout à fait. Mais je pense que sur un plan politique, en général, il faut que les leaders fassent quelque chose. Hein. Parce que là, s'ils ne le font pas, de toute façon, nous, en tant que civils, on va le faire. Moi, je ne suis pas une politicienne. Je suis juste quelqu'un qui a envie, à ma petite échelle, de pouvoir faire quelque chose et sans rester les bras assis, et ce, depuis que j'ai 19 ans. Et aujourd'hui, plus que jamais, maintenant que j'ai un enfant, et plus que jamais, j'ai pas envie de dire à ma fille que je me suis assise et que j'ai attendu que le temps passe pour qu'elle ait les 20 ans et dise « Mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait ?»
On va devoir s'arrêter, mais c'est... merci beaucoup pour tous ces témoignages, que c'est passionnant en fait. Donc ce podcast s'appelle Vlan, comme tu le sais, et donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. C'est et où.
J'ai envie d'ouvrir la porte à... au positivisme, à nouveau. On en a besoin. On en a besoin parce que plus on se rend compte des choses, plus on sombre dans quelque chose qui est assez mélancolique et assez sombre là. J'ai envie qu'on ouvre la porte au choix du bonheur. On peut choisir, en fait. Ça veut pas être heureux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème et que tout est parfait dans notre vie, mais choisir, en fait, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Bien sûr.
C'est déjà, ça change la trajectoire de ta journée en fonction de ce que tu vas choisir et ça change comment tu vas avancer dans ta journée. Et une journée à la fois, tu peux... voilà, tu construis ta vie comme ça. Et j'ai envie de fermer la porte à... au déni. Parce que les gens qui disent toujours « Ouais, mais non, tu exagères. » Ça, je ne vais plus entendre. « Ouais, mais non, tu exagères. » Parce qu'on a tous des expériences complètement différentes en fonction de notre genre, en fonction de notre orientation sexuelle, en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre âge, en fonction de nos origines, en fonction de là où on vit et là où on est né. Donc, j'ai envie que ça s'arrête. Au lieu de dire « Ouais, mais non, t'exagères », écoute, tout simplement. Sois à l'écoute. Et en écoutant, tu pourras avoir une perspective qui est différente de la tienne, en fait. Juste élargis un peu ta vision. Et aussi, ça peut faire peur, mais voilà. Commençons par ça, un pas à la fois. Je pense que si on se dit, on va changer le monde comme ça, du jour au lendemain, mais changeons un petit peu, tous les jours, quelque chose. Et au final, d'une génération à l'autre, on va s'améliorer.
Parfait. Merci beaucoup, Ina.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !